Le chiffre qu'on voit aujourd'hui, 8,1% d'inflation, nous, on pense que c'est un sommet.
J'ai tout le temps peur de faire des installations. Je pense que ça fait pas mal partie de tout le monde qui travaille dehors avec nous dans l'équipe.
Vu l'urgence de la situation, nous maintenons le cap sur le plan de match de réduction du cheptel.
Bonne fin de journée, tout le monde. Ça surchauffe. Oui, bien, il fait littéralement chaud aujourd'hui, même si c'est rien à comparer ce qui touche l'Europe. Il y a des avertissements de chaleur qui sont en vigueur pour plusieurs régions du sud du Québec. On va y revenir dans un moment. Mais ce qui connaît une surchauffe historique également en ce moment, c'est l'économie et nos budgets. Statistique Canada a confirmé ce matin que l'inflation s'accélère. L'indice des prix à la consommation a augmenté à 8,1 % en juin comparativement à l'an passé. J'en parle avec mon collègue Étienne Fortin-Gauthier. Salut Étienne.
Michel.
Alors, ça confirme en fait ce qu'on vit chaque fois qu'on sort notre portefeuille. Tout coûte de plus en plus cher. Une hausse comme celle-là, ça n'a pas été vue dans près de 40 ans. Là.
Jamais vu depuis 1983. C'est quand même incroyable. Puis les gens à la maison, ils vivent à tous les jours en faisant leurs achats. Le 8,1 % c'est l'augmentation du coût de la vie si on compare juin 2021 à juin 2022. Et ça augmente dans toutes les sphères. Regardez notre tableau. La Statistique Canada l'a confirmé aujourd'hui. Les aliments, l'essence, le logement, il y a une augmentation des prix d'un mois à l'autre. Mais c'est lorsqu'on compare les prix de l'énergie depuis un an que ça choque encore plus.
Hein?
50 % de plus en un an, Michel. Donc, beaucoup de mauvaises nouvelles en apparence aujourd'hui, mais il y en avait des bonnes aujourd'hui également, selon l'économiste en chef de la Banque de développement du Canada à qui j'ai parlé. Écoutez-le.
La première, c'est qu'on voit que le prix des aliments n'a pas augmenté aussi rapidement que dans les mois passés. Donc, on voit qu'une stabilité s'installe. On sait que le prix de l'essence a commencé à diminuer. Ça ne se reflète pas encore dans les chiffres d'aujourd'hui, mais ça va se refléter dans les chiffres du prochain mois. Donc, le niveau qu'on voit, 8,1 %, c'est probablement un sommet. On doit s'attendre à ce que l'inflation va graduellement diminuer au cours des prochains mois.
Donc, on l'espère que les choses se calment, ce serait positif. Mais en attendant, quelle est l'aide pour les gens dans le besoin?
Bien, on sait qu'il y a eu un chèque de 500 $ du gouvernement québécois pour nous aider face à l'inflation. Le gouvernement Legault a fait miroiter ça à nouveau. Et aujourd'hui, Éric Kerr, le ministre des Finances, a encore parlé d'une aide pour aider les Québécois. Mais on va avoir les détails seulement pendant la campagne électorale.
Ah, ben oui.
Donc, pendant la campagne électorale, pour l'instant, il a repoussé ça.
Alors que c'est là qu'il y en a qui en auraient peut-être besoin.
Mais c'est ça. On sait que c'est dans deux mois, un peu moins de deux mois, la campagne. Il y en a qui voudraient une augmentation des salaires, mais la BDC dit attention, les entreprises aussi sont frappées par l'inflation.
Donc, les entreprises sont plutôt réticentes d'augmenter les salaires parce qu'ils font face déjà à une augmentation de coût de leur intrants. Donc, ils doivent être compétitifs également. Donc, on est dans un environnement assez difficile à la fois pour les consommateurs, mais aussi pour les entreprises.
Et l'enjeu, c'est que les prix augmentent plus vite que les salaires.
Exactement. Merci beaucoup, Étienne.
Merci, Michel.
Revenons à la température maintenant. Bien, le maximum atteint au Québec aujourd'hui, en tout cas à Montréal, en fait, a été de 30 degrés, une sensation de 39 avec l'humidex. Presque tout le sud de la province est sous le coup d'un avertissement de chaleur. J'en parle avec mon collègue Emmanuel Leroux-Néga, qu'on retrouve à l'extérieur, au chaud à Montréal. Comment Montréal a fait face à l'une de ses premières journées de très chaudes de l'été, Emmanuel?
Bien, Montréal, la ville, n'a pas fait grand-chose de spécifique. Il faut dire que la ville a un plan chaleur extrême et que celui-ci est seulement activé quand il fait des températures spécifiques. Par exemple, 33 degrés Celsius sur 3 jours et des nuits à 20 degrés. Ce qui n'est pas encore le cas à Montréal. Je suis quand même allé faire un tour au centre-ville et la plupart des gens rencontrés étaient davantage contents qu'accablés par la chaleur, il faut le dire, qui a fait moins chaud que ce qui avait été annoncé au départ. Par contre, il y a quand même des citoyens, comme vous allez voir dans le reportage, qui demeurent plus affectés par la chaleur, par cette vague de chaleur qui s'en vient, surtout des gens qui travaillent à l'extérieur toute la journée pour les festivals. Je vous laisse regarder ça.
Bien, moi, je suis souvent ici là, au quartier des spectacles à chaque année, puis c'est souvent tout le temps la canicule. C'est que c'est pesant, là, on va souvent à l'air climatisé se rafraîchir un peu aussi là, dans le complexe. Sinon, on s'en sort pas. Pendant une journée complète, c'est l'enfer.
Bien, c'est sûr, j'ai tout le temps peur de faire des installations. Je pense que ça fait pas mal partie de tout le monde qui travaille dehors avec nous dans l'équipe. On travaille fort, travail physique aussi, l'aménagement, surtout beaucoup. Fait qu'on fait attention pour boire de l'eau, bien manger, prendre des breaks. J'aime bien mieux avoir chaud puis aller me saucer dans la fontaine le midi que de m'abriter avec mon gros coat pour la pluie.
ces vagues de chaleur ou ces chaleurs extrêmes sont particulièrement difficiles pour les gens qui sont en situation d'itinérance, qui ont souvent très, très peu d'endroits où ils peuvent aller se mettre au frais.
On fait des insolations, on perd le nord. Parfois, il y a des gens, ils sont tellement fatigués de marcher pour récupérer des canettes ou des trucs comme ça, qu'ils s'arrêtent là, ils se posent par terre, ils dorment, et après, ils se réveillent, ils ont plus de force. Donc, c'est les ambulanciers qui viennent pour les sortir de là. Donc, c'est dangereux.
En fait, on est un sort de jour et de soir. Si les personnes peuvent rentrer sans problème, on a l'air climatisé, on a bien évidemment de l'eau, on offre aussi du café à manger, on a une salle de lavage, des douches. La chaleur nous inquiète toujours parce que nos clients ont leurs propres problématiques. Fait que ce soit quelqu'un qui consomme ou quelqu'un qui a un problème d'alcool, fait que là, quelqu'un va, exemple, consommer normalement, il va faire chaud, il va pas boire de l'eau, il va se ramasser dans un malaise, appeler le 911, aller à l'hôpital, ressortir de l'hôpital quand il sent mieux et on recommence le lendemain, surtout dans des temps de canicule. Puis d'avoir une douche, d'avoir une buanderie, ça aide aussi l'estime de soi, ça les garde dans un état d'esprit où ils sont bien. Et malheureusement, la clientèle n'est pas très tolérée dans les parcs, surtout des parcs familiales où il y a des jeux d'eau, des choses comme ça. C'est très rare qu'ils vont aller dans ces endroits-là parce qu'ils ne sont pas très acceptés. Mais de toute façon, en tout temps, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid ou qu'il fasse beau, dormir à l'extérieur, vivre à l'extérieur, c'est pas normal.
Et alors que la septième vague de la COVID se poursuit, on apprend que la prime COVID pour les employés du réseau de la santé serait de retour à compter de vendredi. Alors, les heures supplémentaires seront payées en temps double. Le taux d'absentéisme et le nombre d'hospitalisations liées à la COVID forcent en ce moment le gouvernement à ramener des mesures comme ça, incitatives pour les travailleurs. Le directeur national de la santé publique du Québec qui doit faire le point, le Dr Luc Boileau, ce sera demain, fera le point sur la pandémie à 14 heures. En santé, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal met en demeure la Ville de Montréal et son projet de développement d'une piste cyclable du rêve, là, le réseau express vélo aux alentours de l'hôpital. Le CHUM s'inquiète en fait des risques d'accidents et de congestion routière. La direction craint que la piste cyclable actuelle qui passe devant l'entrée des ambulances de l'urgence devienne une autoroute à vélo.
Ce avec quoi on n'est pas d'accord, c'est l'emplacement, que ce soit du côté nord, de viger juste dans l'entrée des ambulances, c'est extrêmement difficile pour nous. Ça ne sera pas sécuritaire non plus pour les vélos. On a eu une rencontre avec des élus et des représentants de la ville, mais c'était une conversation de sourds.
Bon, et on a avec nous un représentant de la ville, le conseiller municipal du district Saint-Jacques dans Ville-Marie, Monsieur Robert Baudry. Bonsoir, Monsieur Baudry.
Bonsoir, Monsieur Baudry.
Merci d'être là. En déposant cette mise en demeure, le CHUM, en fait, dit vouloir arrêter le projet pour avoir l'occasion de discuter, être entendu. Est-ce que vous avez eu des discussions avec l'équipe
de nombreuses.
Du CHUM?
Moi-même, j'ai rencontré Mme Fleury. On a eu de nombreuses rencontres avec la direction du CHUM parce que c'est un projet de longue haleine. Hein? On le sait, le chantier devant le CHUM ne commencera pas avant 2025. Donc, c'est une piste cyclable qui existe déjà, qu'on veut venir sécuriser, qu'on veut venir connecter au réseau express vélo. Et on a eu des rencontres où on a justement abordé des enjeux parce que, on va être clair, là, de notre côté, on ne fera jamais de compromis sur la sécurité. Une entrée d'ambulance, les ambulances auront toujours accès au garage.
Vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit quand même, là? Du côté du CHUM, on dit qu'il y a des va-et-vient constants d'ambulances, il y a des visiteurs qui ne sont pas habitués aux liens. Quand on va à l'hôpital, c'est rare qu'on a l'esprit en paix. Des patients qui vont principalement en voiture, les risques d'accident sont quand même énormes dans ce point-là.
En fait, ça fait 12 ans que la piste cyclable existe et on n'a enregistré aucune collision en 12 ans. Aucune collision en 12 ans à cet endroit-là. Donc, ça se passe bien. Et il y a une croissance de l'affluence déjà parce que c'est un axe qui est très important. Donc, nous, ce qu'on vient dire, c'est que cet axe-là existe, il fonctionne, il est utilisé par même les employés du CHUM. En fait, il y a l'entrée des vélos du CHUM qui est survigée de ce côté-là. Et même des gens à mobilité réduite peuvent l'utiliser avec un triporteur. Là. Le rêve sert à ça. Et là, on vient la sécuriser. Et on a l'opportunité
de
maintenant...
De quelle façon? Là, pour ceux qui ne comprennent pas exactement c'est quoi la différence entre une piste cyclable et le rêve, en quoi vous venez sécuriser en disant qu'on va augmenter probablement le nombre de vélos qui vont passer là?
Une bande cyclable, c'est une peinture au sol. Une piste cyclable style rêve, il y a une ligne de béton qui divise la place des vélos avec la place des voitures. Donc, ça fait en sorte qu'il y a une signalisation particulière aussi avec des feux vélos, etc., tout ça. Donc, tout ça est bien balisé. Et c'est pas la seule entrée Chartières qu'on a où il y a des véhicules qui sortent de façon fréquente. On en a d'autres. On a des pistes cyclables qui passent devant des casernes de pompiers, devant d'autres types d'institutions comme des hôtels, que c'est du 24-7. Et on arrive à mettre en place des mesures, des signaux, par exemple, sonores, des signaux visuels, etc. Donc, il y a plein de moyens qu'on peut ralentir le flux vélo à ce moment-là.
Alors, une piste cyclable, ça a sa place devant une porte de garage d'un hôpital?
Elle est déjà là et ça se passe très bien. Elle vient se connecter au réseau et je vous dirais là, que le système de santé, la direction de la santé publique appuie le développement du REV. On a travaillé ça avec des experts. Comme je vous dis, on ne fait jamais de compromis sur la sécurité. Et ici, bien, on vient sécuriser une piste qui existe déjà.
Mais ce qu'on comprend du côté du CHUM, on trouve que ce n'est pas une bonne idée de mettre ça de ce côté-là, de la rue Vigée, qu'on devrait peut-être mettre ça ailleurs. Est-ce que d'autres options, justement, est-ce que c'est possible de déplacer?
Non, parce que ça serait plus dangereux de déplacer un simple tronçon, parce que là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient traverser des axes de façon diagonale, et là, il y a plus de risques de conflit.
Dossier à suivre. Merci beaucoup, M. Baudry, d'avoir été avec nous
ce soir. Merci, M. Béral.
Une activité d'initiation au camping à Montréal fait vraiment pas l'unanimité. Certains comprennent pas, en fait, pourquoi c'est accepté alors que les campements d'itinérants sont interdits par la ville et démantelés, d'ailleurs, rapidement par les policiers. Il y a une manifestation qui aura lieu en marge de l'événement organisé par Parc Canada ce week-end. Anaïs Elbouche-Daini nous présente, en fait, les deux côtés de la médaille dans le dossier.
On est ici aujourd'hui pour dénoncer leur activité, le manque de sensibilité de la part de Parc Canada, sachant que c'est tolérance zéro à Montréal pour les campements, c'est tolérance zéro pour les personnes en situation d'itinérance. Nous, on a prévu une manifestation sous forme de camping. On va parler de la crise du logement, on va discuter de c'est quoi le problème par rapport au démantèlement et comment c'est violent se faire démanteler.
Dans la mesure où ils veulent venir faire un événement d'initiation à la sensibilisation des personnes en situation d'itinérance à côté de nous, puis de façon respectueuse, on n'a aucun problème avec ça. C'est même une belle occasion de passer un message que ces gens-là ont le droit d'avoir une voix.
Moi, en fait, j'ai même su par des usagers que ces usagers-là avaient campé avant, à l'endroit même où il y a l'activité de Parc Canada, et ils ont été démantelés. Donc, c'était pas des ouï-dire, là. Quand j'ai dit « ben voilà, c'est là que ça se passe », c'est comme « hey, je campais là il y a pas longtemps, puis on m'a dit de partir pour finalement louer mon beau spot à 108 $ ».
Parc Canada est très sensible à la cause des personnes en situation d'itinérance. Nous-mêmes, si on va se promener sur le canal de la Chine, on en retrouve des personnes en situation d'itinérance qui campent sur notre terrain. La politique de Parc Canada, c'est d'adopter une certaine tolérance.
C'est pas l'activité en tant que telle qu'on dénonce, c'est une super belle initiative de Parc Canada d'apprendre le camping. C'est le lieu. Puis quand on parle du lieu, c'est pas nécessairement le bord du canal de la Chine, c'est vraiment, on parle de toute l'île de Montréal. Parce que la mairesse l'a nommé dans les années précédentes, comme j'ai dit, c'est tolérance zéro pour les campements. Puis quand on parle de campements, je sais que les gens imaginent beaucoup la rue Notre-Dame, campement avec 50 tentes, mais malheureusement, dans la ville de Montréal, c'est une tente, une personne, c'est un campement, même si tu es bien caché et même s'il n'y a aucune plainte de citoyen, tu dois être démantelé par la police.
On revient sur la chaleur. Au Québec, 59% de la population possède un climatiseur, selon Statistiques Canada. À Montréal, on parle même de 69%. Bien qu'ils nous rafraîchissent, les climatiseurs contribuent au réchauffement climatique. Alors, comment s'en passer lors de ces journées chaudes? Ma collègue Jennifer s'est penchée sur la question.
Il fait chaud, c'est humide. Et si vous n'avez pas de piscine, vous passez probablement vos journées à l'intérieur, au frais, à l'air climatisé. Mais on le sait, les climatiseurs sont très énergivores et l'usage massif d'air climatisé a un impact sur l'environnement, sur le réchauffement climatique. Donc, si on voulait être moins dépendant des climatiseurs, à quoi ressemblerait la ville, le Montréal de demain? Selon un architecte et professeur spécialisé en architecture durable et environnementale, un des points qui devrait être de plus en plus mis de l'avant lors de la conception d'un bâtiment, c'est la ventilation transversale. Et dans le quartier Griffinton à Montréal, un nouveau projet de logement met cet aspect-là de l'avant.
Il y a des chambres sur un côté, le salon sur l'autre, les fenêtres et le corridor pour avoir accès à ton unité et sur des passerelles extérieures. Et c'est une façon d'avoir des balcons et des espaces tampons entre les passerelles et l'unité, mais l'air traverse d'un côté à l'autre.
Dans ce même projet-là, une grande partie des fenêtres vont avoir des volets extérieurs. C'est un système qui est assez populaire en Europe. Plusieurs pays l'utilisent pour être moins dépendants des climatiseurs, mais on en voit encore très peu ici au Québec. Un autre projet qui a été mis à l'étude, c'est le principe des réseaux souterrains, ou ce qu'on peut appeler aussi les réseaux urbains. Donc ça, ça éviterait que les grandes tours à bureaux au centre-ville rejettent la chaleur par le toit.
J'ai fait une étude avec l'École polytechnique, la Fondation Suzuki, la Ville de Montréal. Qu'est-ce qui se passe si on force tout le monde à jeter leur chaleur dans un réseau souterrain? Le surplus de chaleur de l'été sera utilisé en hiver. C'est comme d'utiliser le sol comme une grande batterie.
D'ici à ce qu'il y ait des changements dans la plupart des bâtiments des grandes villes, il existe quand même certaines pistes de solutions pour réduire notre dépendance à notre air climatisé.
La façon la plus efficace, c'est vraiment de bloquer les rayons du soleil à l'extérieur, donc d'installer des auvents, d'installer des toiles. On peut aussi les bloquer à l'intérieur avec des rideaux opaques, mais c'est moins efficace. Si vous avez à refaire votre toit, surtout si c'est un toit plat, optez pour un toit blanc, un toit plus pâle. Les toits noirs absorbent beaucoup la chaleur des rayons du soleil, donc ça a tendance à augmenter la température. Ça va aussi contribuer aux îlots de chaleur. Donc, il y a plusieurs quartiers à Montréal, par exemple, qui obligent maintenant à avoir des toits blancs. Mais si on vit à l'extérieur de ces quartiers-là ou dans d'autres municipalités, puis on doit refaire notre toit, bien, c'est définitivement une alternative là, à explorer.
Je parle à quoi?
Attention. Il y a du nouveau dans le dossier des serres à Longueuil.
Vu l'urgence de la situation, nous maintenons le cap sur le plan de match de réduction du cheptel de serre.
La Ville de Longueuil va tenir une opération de chasse contrôlée à l'arbalète cet automne plutôt qu'une opération d'euthanasie pour contrôler la surpopulation de serres dans le parc Michel-Chartrand. La Ville dit en fait être forcée de procéder de la sorte devant un nouveau recensement fait ce printemps qui rapporte qu'il y a 108 serres qui s'y trouvaient. Et ça, c'était avant la période de reproduction. Le parc n'aurait en fait la capacité que d'accueillir une quinzaine de bêtes. Avec nous, Maître Anne-France Goldwater, avocate de l'organisme Sauvetage Animal Rescue, qui souhaite en fait éviter l'abattage de cette centaine de cerfs. Bonsoir, Maître Goldwater.
En effet, bonsoir.
Tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette volonté, cette décision de la Ville de Longueuil d'aller avec, avec une chasse contrôlée?
Mais c'était exactement le plan avant. Et quand ils m'ont averti de ce fait hier, je ne pouvais pas m'empêcher de faire des commentaires assez sarcastiques à leur égard, à l'égard de mes confrères pour la Ville de Longueuil. Parce que là, le plan avant, c'était d'attraper les cerfs et de les tuer avec un pistolet à tige percutante. Alors, je suppose, quand ils ont vu dans les procédures que j'ai alléguées, c'est une façon d'une cruauté immense de tuer un animal... Ils ont changé de fusil d'épaule.
Ouais. Même si blagues. Ça se passe sans fusil, on s'entend, oui.
Petite blague d'anglophone, pas pire, pas pire. Et là, ils disent qu'ils ont utilisé des arbalètes. Oui. Moi, je trouve qu'ils regardent trop la télé. Je sais, tout le monde est amateur de The Walking Dead et toutes les femmes sont amoureuses de Daryl Dixon qui se promenait à tuer avec des arbalètes. Mais il n'y a rien qui est plus cruel qu'une arbalète. C'est sûr, ça va causer une souffrance accrue. Et je ne peux pas imaginer dans un parc si énorme que ce parc-ci, un milieu urbain avec des familles, des enfants, des grands-parents, des bébés nourrissons, des chiens, qui ne va pas avoir des accidents tragiques.
On dit que ce sera une chasse contrôlée. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Maître Goldwater, avec ce problème-là? Parce qu'on est rendu à plus d'une centaine de cerfs, puis probablement beaucoup plus, parce que je le disais tout à l'heure, ça, c'était recensé avant la période de reproduction. Fait qu'il y en a probablement des dizaines d'autres en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait avec la situation?
Premièrement, ils changent d'estimé de cerfs comme ils changent de pantalon. C'est toujours un autre chiffre, et puis rien n'est validé scientifiquement. Et pour ceux, les Longueuillois qui nourrissent ces animaux-là, je regrette parce que ça contribue à la surpopulation si on nourrit un animal sauvage. Ils estiment qu'il y a peut-être 60 cerfs bien nourris en bonne santé dans le parc. La solution, c'est relocaliser ces cerfs à nos frais, aux frais de Sauvetage Animal Rescue, de les vermifuger, veiller à leur santé, les vacciner, les stériliser relocaliser ses serres dans un refuge.
Mais il y a eu des conclusions là-dessus, que ce n'était pas possible parce qu'il y a un taux de mortalité élevé des serres qu'on relocalise, le stress qui est causé par la relocalisation, les risques élevés de blessures, les risques de transmission de maladies entre les bêtes quand on les met dans un nouveau milieu. Alors, on fait quoi? Parce qu'on semble être
Toute cette argumentation est non scientifique. On a un problème dans la province du Québec. On se parle qu'entre nous. On ne parle jamais à personne d'autre. C'est comme l'ours polaire là, donc, qui était assassiné, là, qui était abattu en Gaspésie. Si on pouvait se permettre par les autres Canadiens américains, ils ont des experts partout qui font de l'exécution des plans de relocalisation avec un taux de mortalité très bas, avec peu de stress pour l'animal. Et puis, on est prêt à mettre nos mains dans nos poches pour financer la consultation de tel expert.
Dites-moi, quelle est la différence entre ce qu'une chasse contrôlée, comme le veut faire la ville de Longueuil, et la chasse en général, où on permet des fois des permis un peu plus élevés pour certains types d'animaux pour justement contrôler des populations pour certains animaux au Québec?
Ce n'est pas le but de contrôler la population. La chasse, je ne me remets pas en question le droit de chasseur de chasser dans des environnements... où l'animal demeure sauvage. Mais l'animal qui vit dans un environnement urbain, il perd sa crainte du prédateur, l'être humain. Ce sont des animaux quasi domestiqués, comme un chat ou un chien, et puis ils ne vont pas se défendre, ils ne vont pas se sauver, ils ne vont pas courir, ils ne vont pas se cacher.
Il reste 5 secondes. J'ai juste le temps de vous remercier. Je pense qu'on aurait pu en reparler. On va vous réinviter sur ce dossier-là. Merci beaucoup.
Il y a beaucoup à dire.
Bonsoir, Étienne. On parlait de chaleur, canicule en Europe, une vague de chaleur ici. Les États-Unis également sont touchés. Et Joe Biden s'est adressé à la population aujourd'hui.
Oui, il y a eu des grosses températures très chaudes pendant l'été aux États-Unis. Le président américain qui a rappelé aujourd'hui ses engagements climatiques et annoncé de nouvelles mesures. On verra si ça va pouvoir passer alors qu'il n'y a pas la majorité dans toutes les chambres. Les États-Unis prévoient réduire leurs émissions de GES. Mais aujourd'hui, il n'a pas déclaré l'urgence climatique comme certains pensaient que ça allait se produire. Ça pourrait survenir peut-être en septembre, c'est ce qu'on dit. Mais justement, aujourd'hui, son annonce a passé un peu dans le beurre. La plupart des médias en font pas, même pas leur une de leur site web. On va parler de tout ça avec Valérie Beaudoin, notre collaboratrice des États-Unis. Là.
Alors, ce soir, 22h également, tu vas revenir sur l'inflation. On parlait de cette hausse qui se poursuit. On va parler plus précisément des effets sur les gens à faible revenu.
Ben oui, parce que ça coûte tellement cher, les aliments, ces augmentations-là, qu'il y en a plusieurs qui se tournent de plus en plus vers Moisson Montréal, par exemple, ou d'autres organismes de charité. Mais eux aussi, ils manquent d'aliments, puis ils ont moins d'argent pour en acheter. Donc, ils ont des problèmes. Ouais. On a une invitée là-dessus.
C'est difficile de savoir exactement quand ça va aller mieux à ce niveau-là. Merci beaucoup, Étienne. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, tout le monde. On se retrouve demain dès 17h30. Bye-bye.